ça sont les comètes de Madagascar. La femelle et le mâle, tu vois. Et le plus petit, c'est le mâle. Tu vois le jaune, là? C'est un citron. On le trouve à la campagne. Tu as dû en voir déjà.
Jamais.
Pas très observatrice.
J'ai jamais été à la campagne.
Oh, bon, mais enfin, tu sais au moins comment ça naît, un papillon.
CO2, mon amour. Denis Chessou.
L'émission qui prend le temps de ne pas aller trop vite. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement avec Michel Thomas et Ludovic Asselot à la technique, assisté de Stéphane Combe, sans oublier Albert Hook, c'est Christophe Imbert qui réalise cette émission. Allez, une petite humeur. Ah, vous êtes dans l'écologie et vous tenez le coup? Ah bah dites donc, c'est compliqué hein, quand même, surtout en France. Mais ne vous inquiétez pas, vous savez, il y a de très bons antidépresseurs à base de plantes. Oui, ah oui, alors qu'est-ce qui vous chagrine encore? Bah c'est peut-être devoir partir en fumée les portiques de l'écotaxe. Autrefois, c'était les livres et les sorcières que l'on brûlait en public. Aujourd'hui, les portiques, l'autodafé se modernise. Alors évidemment, à 1 million d'euros la pièce, je vous l'accorde, ça fait cher du barbecue. Et puis, c'est le paradoxe qui gêne un petit peu. Hein, on installe un dispositif pour collecter de l'argent afin de réparer les dégâts de la pollution. Et au final, ça n'aboutit qu'à faire grimper les émissions de CO2 dans l'atmosphère. C'est quand même très ennuyeux. Ah oui, quel bel hommage hein, aux émeutiers du XVIIe siècle en Bretagne, des fâcheux qui en 1675 se révoltèrent contre un énième haussement de taxes décidé par Louis XIV. La misère était là, mais il fallait bâtir Versailles et alimenter la guerre en Hollande. Alors la Bretagne a pris le gourdin et on l'a pendit sur les arbres des chemins. Ce fut la révolte du papier timbré. Aujourd'hui, s'estimant leurs héritiers, des agriculteurs, des routiers, des PME, des hypermarchés, sont révoltés contre le portique douanier. Sortie de la misère par l'agriculture intensive, la Bretagne s'est hissée par sa force, par sa culture, son travail dans l'économie et l'imaginaire français. Nourrie aux subventions et aux défiscalisations, son développement a été aussi exceptionnel. Malheureusement, ce qui a fait crever le Nord, la Lorraine et fera peut-être demain s'effondrer la Franche-Comté et la Bretagne, eh bien c'est la spécialisation régionale par la monoproduction. Hier, la mine, la sidérurgie, le textile, après-demain la voiture, demain l'élevage intensif, bref, le génie de l'énarchie planificatrice. Et Frédéric Danhé, qui intervient régulièrement à ce micro et qui a aussi réfléchi au sujet, me rappelait qu'une économie qui s'effondre, c'est parce qu'elle en fait s'est asphyxiée en courant toujours plus vite pour rappeler la grande concurrence toujours moins chère et s'est usé le genou à quémander à la grande distribution et aux géants de l'agroalimentaire quelques centimes de plus pour simplement atteindre les prix de revient. Les portiques ne sont pour rien dans le malheur breton. Au contraire, ils ne sont qu'un bouc émissaire, un bâton totem que l'on abat après avoir scandé autour. C'est parfois même un petit peu plus facile. Les découpeurs de viande qui délocalisent leurs couteaux aussitôt qu'on leur retire leur perfusion de subventions, eh bien c'est peut-être contre eux et la grande distribution que les bonnets rouges devraient aussi se battre. Car l'écotaxe allait enfin donner un prix plus conforme à la réalité du transport, à l'usage de la voirie, au coût des dégâts. Elle était une façon de réfléchir à deux fois avant d'envoyer un camion sur les routes pour un oui ou pour un non. Alors non, faut pas en vouloir à nos contemporains, bien sûr, parce que on est tous englués dans un modèle productiviste plus sûrement encore qu'un macareux dans le fioul après le dégazage d'un pétrolier en pleine mer. Nous sommes manifestement incapables de nous projeter dans le futur, quoique on nous dit que l'imagination fait défaut, on va essayer de démontrer le contraire. L'ultra court terme est la seule religion de l'humanité. Mais non, on ne déprime pas, car on a trouvé moyen de recycler ces portiques de l'écotaxe qui ont fait long feu. Ah oui, le recyclage, c'est quand même un truc pour les écolos, quand même. Bon, alors on peut les transformer en boîtes de conserve pour contenir du confit d'algues vertes et du suprême de lisier. On peut les recycler en œuvres d'art poético-sidérurgiques pour pendre les dernières illusions d'une fiscalité écologique. On peut aussi les installer dans les jardins publics pour y accrocher des balançoires et des rêves. Là, les gamins seront ravis. Et les gamins, bah, c'est l'avenir. Et surtout, n'oubliez pas, malgré les travaux, l'environnement continue avec bien plus d'initiatives qu'on ne pense. Un monde en marche, justement, pour ne pas désespérer, loin de là, avec plein d'initiatives. On va avoir un petit regard sur la Finlande. Ça va être notre tour, en fait, d'Europe, notre tour européen. On va partir donc en Finlande avec le regard d'un naturaliste. On va rencontrer deux étudiants qui ont réalisé un tour du monde des pratiques de pêche côtière. Deux jeunes qui ont 23 ans et 24 ans, c'est très intéressant. On s'offrira en fin d'émission une promenade automnale en Lorraine. Donc en Lorraine, ça veut dire que nous serons avec Jean-Marie Pelt. Et puis, dans quelques instants, bah, écoutez, ça va être une entreprise bretonne, justement, qui a plein d'idées.
Entreprendre une autre économie.
Eh oui, parce qu'il se passe plein de choses aussi d'avenir en Bretagne. Donc on va rejoindre un garçon qui s'appelle Rémi Lucas. Algopac, c'est le nom de sa jeune société. Vous voulez en savoir plus ? On y va. Alors là, c'est pas mal, Rémi Lucas, parce qu'on est en train de se poser tranquillement sur une plage. On est chez vous en Bretagne. Sur quelle côte sommes-nous exactement ?
On est sur la côte d'Émeraude, qui tient sa... la couleur émeraude et la même couleur de l'eau, parce qu'à certains moments, l'eau est vraiment comme une émeraude et elle scintille comme une émeraude.
Alors, nous sommes avec vous parce que vous êtes un ingénieur de formation, Rémi Lucas, et vous vous intéressez aux algues. Alors, c'est vrai que l'on connaît depuis très longtemps celles et ceux qu'on appelait les goémoniers, c'est-à-dire qui ramassaient donc les algues et qui donc fertilisaient les champs.
Oui, c'était mes grands-mères, entre autres, hein, qui ramassaient les algues avec une charrette à bras et un percheron et qui ensuite les mettaient sur les dunes pour les faire sécher. Et enfin, ensuite, ils faisaient des gros tas et puis les grands-pères ramenaient tout ça avec la belle charrette dans les champs pour fertiliser la terre.
Alors, que faites-vous avec ces algues, vous ? Quelle a été votre réflexion puis aussi votre parcours ?
Mon parcours est un peu entre guillemets atypique. J'ai oublié les algues pendant un moment et j'ai travaillé dans la plasturgie pendant 15 ans. J'ai vu l'évolution, la transition vers une chimie plus respectueuse, vers la chimie du végétal. Un jour, les algues sont réapparues dans mon imaginaire et je me suis dit qu'il était sans doute possible de faire quelque chose avec les algues. Et j'ai commencé dans mon garage pour essayer de fabriquer un matériau à base d'algues qui remplace le plastique.
D'accord, donc là, ça veut dire que votre secret, votre brevet, c'est là qu'il est.
Oui, le brevet réside dans l'invention de transformer les algues en un matériau rigide qui remplace le plastique, mais qui apporte aussi une chaîne de valeur. C'est-à-dire que la matière, on ne part pas d'une ressource agro-sourcée, on part de l'algue que l'on met en culture en mer. Ensuite, on la transforme à des températures beaucoup plus faibles que l'industrie du plastique aujourd'hui. Et en fin de vie, eh bien, l'algue retrouve une de ses fonctions historiques, celle de fertiliser la terre. Et elle disparaît totalement dans la terre. Et donc la ressource est absolument à protéger et on ne peut pas faire n'importe quoi avec la ressource d'algues. Alors, je ne suis pas le premier à le dire parce que la Bretagne est vraiment en avance là-dessus, entre autres. Et moi, je milite à travers mon entreprise pour le développement d'une filière qui s'appelle l'algoculture, c'est-à-dire que l'on cultive des algues en écloserie, qu'on les mette à pousser sur des bouts en mer, et les algues, ensuite, elles poussent toutes seules.
Parce qu'en fait, on a un peu le sentiment qu'on va demander énormément aux algues. Je le rappelle, il y a énormément de familles, que ce soit les micro-algues, c'est-à-dire qu'on va demander à la fois de produire de l'énergie, de nourrir les hommes et aussi de fabriquer du plastique. Donc ce sont des algues différentes ?
Oui, ce ne sont pas les mêmes algues. On ne va pas prendre des algues qui sont destinées à nourrir les hommes. On est vraiment sur une famille d'algues qui aujourd'hui est inexploitée et ne sert pas à grand-chose.
Rémi Lucas, alors que l'on comprenne bien, maintenant quel type de plastique on va pouvoir fabriquer ?
Il faut arrêter de dire plastique, hein, parce qu'il n'y a pas de plastique dans la matière. Bio, c'est...
Ah, qu'est-ce qu'il faut dire ?
C'est un nouveau matériau.
Ah, d'accord.
C'est un matériau à base d'algues.
Il va servir à quoi ? C'est-à-dire que c'est aussi bien les bouteilles qu'on utilise, les pare-chocs de voiture, ça... C'est...
Alors aujourd'hui, on travaille, je donne des exemples concrets, sur des bouchons, sur des crayons, et on développe peu à peu différents produits, mais toujours en étant certain qu'ils répondent aux besoins du client. Et notre matière s'insère directement dans les process existants de transformation du plastique.
C'est-à-dire que ça peut se marier au plastique ou bien s'utiliser à 100% ?
Ça peut se subtiliser à 100% au plastique dans les process de la plasturgie. Avec un autre intérêt, c'est la consommation énergétique. C'est qu'on travaille à des niveaux de température qui sont nettement inférieurs à ceux utilisés aujourd'hui dans le plastique. Ça a un intérêt énergétique, mais ça a aussi un intérêt économique pour l'entreprise qui l'utilise, puisque la part de l'énergie dans la fabrication d'un matériau aujourd'hui est quand même assez importante.
tout à l'heure, vous me disiez que si ce produit retournait à la nature, ce que l'on ne souhaite pas, parce que, a priori, on n'a pas besoin de le balancer dans la nature, mais il pourrait se dégrader et redevenir un engrais quoi.
Ah oui, il se dégrade à 100% et il est un engrais. C'est que de l'algue, c'est vraiment que de l'algue. Et l'algue est un fertilisant.
Rémi Lucas, on pourrait se dire, je suis donc chef d'entreprise, je m'intéresse à ce que vous faites, mais votre histoire va peut-être me coûter plus cher que la matière première que j'emploie habituellement.
Alors, je n'aurais pas créé mon entreprise si je n'étais pas certain qu'au final, la matière, donc le produit fini, ne réponde pas à un aspect prix, surtout en ces moments de crise relativement sévère. Et donc notre matière, elle est l'algopac 100% algue, est au même prix que le plastique aujourd'hui. À notre échelle, c'est-à-dire qu'on est en petite entreprise, c'est-à-dire qu'en développant la matière, on sera moins cher que le plastique.
Rémi Lucas, ça pose quand même un certain nombre de questions parce que vous n'êtes pas les seuls à avoir gratté le sujet, c'est-à-dire que vous avez quand même des grands groupes qui ont investi dans de la recherche.
Oui, et précisément sur ce secteur des algues comme substitut au plastique pour les matériaux. Donc c'est vrai que ça peut être assez étonnant, mais on est, j'étais seul, maintenant on est deux à avoir réussi cette innovation, alors que de grands groupes ont investi quelques centaines de millions de dollars pour essayer d'y arriver.
Ah ouais. Et puis vous ne l'avez pas fait avec des centaines de millions de dollars. Quoi.
Non, j'ai commencé mon entreprise avec 1000 euros en poche, ouais. Avec un capital de 1000 euros. Et puis peu à peu, j'ai grandi, j'ai mis de l'argent de côté. On a soldé tous nos comptes en banque avec mon épouse, qui partage également les valeurs et qui a compris tout l'enjeu du projet.
Algopac, donc Rémi Lucas, une autre façon aussi de regarder la Bretagne et de regarder donc demain. Et on ne sait qu'une chose dans cette émission, c'est que la vie et les hommes sont débordants d'imagination. Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. And the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't boot me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you. That charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find that happiness I seek. When we're out together swinging cheek to cheek. I want my arm about you, that charm about you, it will carry me through right up to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find that happiness I seek. When we're out together dancing, out together dancing, out together dancing cheek to cheek.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Et Chic to Chic, Frank Sinatra, joue contre joue. Mais qu'est-ce que vous voulez de mieux pour débuter cette émission et débuter cet après-midi sur France Inter? Bah oui, attendez, on a autre chose.
Ailleurs, sur la Terre.
Ah oui, après la Bretagne, bah on aime bien aussi changer un petit peu comme ça. Donc on va remonter vers le Grand Nord avec vous, Pascal Etienne. Bonjour à vous. Vous êtes professeur de biologie, vous êtes photographe naturaliste et puis auteur d'un ouvrage qui s'appelle Norvège, Finlande, Suède. 20 ans de prospection, naturaliste aux éditions du Biotope. Et on va faire donc ce petit tour régulier, on va dire nous aussi d'Europe, mais version environnement, version naturaliste. Et on va partir avec vous en Finlande. Alors ça nous intéresse bien, Pascal Etienne, de savoir où vous êtes dans ce territoire de 338 000 km² avec, me semble-t-il, 17 habitants au kilomètre carré.
Bonjour. Actuellement, je suis dans le nord-est de la Finlande pour un reportage photo sur l'ours brun, donc à 3 km de la frontière russe à Vartius.
Alors c'est intéressant parce qu'en fait, on peut commencer par là. Nous sommes en fait sur une zone, vraiment c'est une espèce de no man's land entre la Russie et la Finlande. Alors comment ça se passe à cette frontière ?
C'est très très réglementé puisque actuellement je suis dans une zone qui est à la limite de la Russie. Donc là j'ai devant moi 3 km de territoire finlandais extrêmement bien surveillé par les militaires. Il faut savoir que juste après la frontière, après ces 3 km de no man's land finlandais, il y a 20 à 30 km de no man's land russe. Donc effectivement c'est toute une zone qui est préservée, protégée.
Et c'est intéressant pour la faune ?
Très intéressant puisque l'absence d'humains, hormis les militaires qui sont là en permanence, l'absence de personnes, de chasseurs notamment, ou même de personnes qui pourraient déranger la faune ici, permet la fréquentation par de très très grands mammifères. Et c'est une zone qui est idéalement conquise par le loup, l'ours, le glouton, le lynx et beaucoup d'oiseaux, des rapaces de grande taille également, des chouettes. Donc beaucoup d'animaux.
Les Finlandais se sentent obligatoirement, je dirais, proches de la nature culturellement. Et en même temps, ils sont chasseurs, donc il n'y a pas d'incompatibilité dans ce pays.
Non, c'est un peu comme au Canada, il n'y a pas d'incompatibilité puisque les chasseurs et les écologistes sont un peu main dans la main. Ils établissent des quotas, des effectifs, ils comptabilisent un peu les espèces et comme il y a, tous les oiseaux ne sont pas chassés comme chez nous, justement, la chasse est assez limitée et limitée peut-être à quelques espèces comme les oies, comme les tétras, mais surtout sur deux mammifères, l'ours brun et l'élan. Donc des quotas sont établis avec les comptages des naturalistes d'une part et des chasseurs.
Pascal Etienne, quels sont maintenant, on va dire, les avantages, les forces de ce pays d'un point de vue naturaliste, environnemental et aussi les faiblesses ?
Le point fort, c'est justement d'être très très à l'écart avec une surface qui fait le tiers de la France, mais seulement 5 millions d'habitants. C'est une zone qui est très bien préservée. Bon, même si les gens vont dans la nature, c'est très très éparpillé, donc il y a peu d'atteinte à l'environnement. D'un autre côté, quand je dis qu'il n'y a pas d'atteinte ou peu d'atteinte, c'est pas tout à fait vrai puisque le milieu forestier est la première activité économique du pays. Hein. Il faut savoir que 78% sensiblement de la forêt couvre la Finlande. Au contraire, par contre, on ne voit plus que 3% de forêt primaire. La forêt primaire, c'était la forêt qui était installée auparavant, avant que l'homme n'intervienne. Donc, on remarque qu'avec 3%, la population actuelle finlandaise a détruit toute cette forêt pour la remplacer par une forêt jeune, bon, qui est gérée, mais qui n'a plus rien à voir avec la forêt d'antan.
On a planté, en fait, des boîtes d'allumettes pour l'industrie papetière, principalement ?
Oui, c'est ça, tout à fait. Il y a des coupes très rases qui sont établies et on replante après. Le site change, là, notamment la forêt que j'ai devant les yeux. Elle est parfaitement belle, hein. C'est superbe, c'est magnifique avec la neige qui commence à tomber et recouvrir ceci. C'est magnifique, mais bon, si on regarde le sous-sol, par exemple, on remarque que c'est un milieu qui a été retourné à un moment donné puisque les coupes se font avec des engins très, très grands à 6 roues motrices, avec des chenilles, parfois, des chaînes. Donc, le milieu en prend un coup. Bon, après, c'est relativement vite récupéré par les lichens et les mousses qui recouvrent de nouveau, mais c'est un milieu qui est quand même atteint, on peut le dire.
Pascal Etienne, ce pays a aussi été touché par Tchernobyl.
Par Tchernobyl, effectivement, on peut se dire que c'est un petit peu lointain, mais non, les conséquences, c'est que le nuage radioactif n'est pas resté en Ukraine, n'est pas resté sur la Pologne, par exemple. On nous a fait croire en France que le nuage s'était arrêté à la frontière, mais en Russie, comme ailleurs, comme en Finlande, les retombées des matières radioactives touchent la population, certes, les animaux par la même occasion, puisque les matières radioactives s'accumulent en fait dans les végétaux, et notamment pour la faune là-bas, beaucoup d'herbivores ont eu à pâtir de ces retombées.
C'est-à-dire en fait, ça se stocke pas mal dans les lichens, et cette plante est très appréciée des rennes.
Oui, c'est ça. Et c'est le drame pour la Finlande comme pour la Suède et la Norvège. Les lapons ont dû tuer énormément de rennes, des milliers de rennes qui n'étaient plus consommables. Donc on a préféré éliminer ces animaux plutôt que les laisser dans la nature, de façon à renouveler le stock par des rennes un peu plus convenables pour la suite.
La mer Baltique n'est pas non plus en très très bon état, hein, parce qu'il y a des entreprises chimiques suédoises ou aussi finlandaises, et avec un certain nombre de rejets qui se sont effectués dans la mer.
Effectivement, ça c'est le drame pour la Finlande, mais aussi la Suède. C'était le drame il y a quelques décennies, pour la simple et bonne raison que dans les années 60, il y a eu des déversements de produits en grande quantité, des pesticides, des métaux lourds, du DDT, des PCB, du mercure, enfin, du plomb. Enfin, beaucoup de produits rejetés par les usines. Ça s'est révélé par la disparition, le déclin d'abord, et la disparition de la population de pygargues. Le pygargue, c'est un rapace de grande taille que vous connaissez peut-être.
Pascal Etienne, vous connaissez très bien ce pays avec d'autres pays nordiques. On va le rappeler, 78% de la surface, c'est de la forêt. Pas loin de 10%, c'est de l'eau, avec principalement donc des milliers de lacs. Quelle sensibilité on a à la nature lorsque l'on est finnois ?
Lorsqu'on est finnois, on adopte une attitude philosophique en s'établissant un petit peu à l'écart, bon, sauf les urbains forcément, mais les habitations sont clairsemées, sont proches des étangs. C'est assez pittoresque de voir dans le nord du pays un hydravion placé devant l'habitation, mais c'est un moyen de communiquer, le pays étant relativement long et les lacs sont très nombreux, de l'ordre de plusieurs milliers. Donc la vie au jour le jour, en allant dans la forêt, on a besoin de construire un bâtiment, on coupe un arbre pour faire un premier piqué, et après on va chercher les planches, on coupe les planches directement, on ne va pas à la scierie forcément, on prend la tronçonneuse, on prend quelques arbres, après on établit quelques planches, et voilà comment ça se passe. Ensuite, le lien avec la nature, c'est au niveau des jardins. À la rigueur, vous voyez très facilement des nichoirs, des mangeoires qui sont disposées. Par contre, c'est hallucinant de voir en pleine nature, vous êtes parfois à 20, 30, 40 kilomètres de la première habitation et vous observez des nichoirs en pleine nature. Ça a de quoi surprendre. Les nichoirs en pleine nature, c'est justement pour montrer que il y a une prise de conscience de cette forêt qui n'est plus la forêt primaire, notamment lorsqu'on établit des coupes forestières abruptes. Voilà un point de mentalité de ces Finlandais dans la nature.
Vous avez déjà rencontré le Père Noël ?
Je l'ai rencontré, effectivement, mais avec une grande déception. Lorsque nous voyageons en Scandinavie, puisque nous avons une fille, lorsqu'elle était petite, on lui avait promis de voir le Père Noël.
Oui.
La première approche a été avec les rennes du Père Noël, puisque quelques rennes ont traversé la route. Et ce qui était incompréhensible pour elle, c'était de voir des rennes portant un collier, puisque certains animaux sont porteurs de colliers, sont des rennes semi-sauvages. Et les colliers n'étaient pas rouges comme la robe du Père Noël, mais vert. Donc ça a été la première déception. Et la deuxième déception, c'est d'aller à Rovaniemi pour rencontrer le Père Noël. Et lorsqu'on a promis justement de voir le Père Noël et qu'on a remarqué qu'il y avait plusieurs Pères Noël et plusieurs magasins de Père Noël, là, ça a été la grande déception également. J'ai rencontré Père Noël.
Je comprends très bien. C'est la nuit là, qui a commencé pendant X mois là, ou...
Effectivement, le jour tombe très très vite. Il n'y a que quelques heures d'ensoleillement. Donc là, ça me permet effectivement de tenter de voir les derniers ours avant qu'ils ne partent en hibernation. Là, les animaux tournent encore un petit peu pour chercher encore à accumuler quelques nourriture s'il y a des cadavres qui traîneraient. L'ours étant herbivore à 90%, il se nourrit de protéines en arrière-saison, donc une carcasse peut toujours l'intéresser. Et donc je tente de le photographier avant qu'il ne disparaisse pour tout l'hiver. Donc là, ça diminue fortement au niveau de luminosité. Oui.
Une bouffée donc de Finlande avec vous. Merci à vous Pascal Etienne. Donc on connaissait la Finlande avec Nokia qui ne se porte pas exactement très très bien, les portables, les forêts, un EPR qui porte très très... Oui, là aussi, quelques petits soucis. Et puis des rennes et des forêts, puis nous continuons régulièrement dans cette émission notre petit tour comme ça européen, naturaliste et environnemental. I had a story about a bird.
We fell in love under a tree. And the girl he loved lived in a house in an orchard by the sea. And every day they used to kiss under the tree close to the sea. They made love there so many times, their bodies shining on the ground.
Choisi habilement par Thierry Dupin, donc après cette balade en forêt finlandaise, eh bien, c'était, il était une forêt avec Émilie Loiseau. Et on va continuer, nous aussi, avec un petit tour du monde très intéressant. On va faire tourner notre globe. Voici le troisième volet de C'est au-delà de mon amour.
Le monde d'après avec les jeunes.
Prenez vos filets, prenez vos lignes. Nous avons Guillaume Daoulas, 23 ans, qui est étudiant à AgroParisTech. Nous avons Gilles Dufresne, 24 ans, en économie. Et ils ont pris tous les deux une année sabbatique. Ils ont trouvé un financement et ils sont partis dans 10 pays à travers 4 continents. Alors le principe, c'est que dans chacun de ces pays, ils ont séjourné une quinzaine de jours dans des villages de pêcheurs. Ils ont partagé le quotidien de ces pêcheurs, ils ont regardé leurs techniques, leurs conditions de vie. Ils ont échangé aussi, parce qu'eux-mêmes sont pêcheurs. Alors on va quand même rappeler, si vous voulez, que dans le monde, on a plus de 40% de la population qui dépend directement ou indirectement de la pêche. On a plus de 200 millions de pêcheurs dans le monde. On est très loin, si vous voulez, de ce 1% des navires qui ramasse 60% aujourd'hui des poissons dans le monde. Et donc, vous êtes intéressés, Guillaume Daoulas et Gilles Dufresne, à la pêche côtière. C'est ça, en fait, qui vous a, on va dire, interpellé au départ.
Nous, on a mis de côté la pêche en zone pélagique et on était donc sur la zone côtière. Donc, c'est-à-dire que les pêcheurs partent jamais à plus de 2-3 km. Mmh. Et nous, on embarquait avec eux et c'était vraiment cette pêche traditionnelle qu'on s'intéressait. Donc, c'est des pêches au filet, des pêches à la palangrotte, diverses techniques qu'on a pu découvrir cette année.
Ah, alors là. Où sommes-nous plus précisément? Donc, on est sur un bateau, sans doute bien.
Voilà, on est sur un bateau au large d'une île qui s'appelle Lembata, qui se situe dans l'est de l'archipel indonésien. Donc, pour vous figurer un petit peu l'endroit, c'est une petite île volcanique comme une grande partie des îles d'Indonésie. Donc il y a un gros cône au milieu de l'île. Mm-hmm. L'île est verdoyante, recouverte de jungle. Et donc on est avec ces pêcheurs, ou même je devrais dire des chasseurs, car en fait on est dans l'unique village indonésien où la chasse à la baleine est encore pratiquée. Donc en gros, tous les jours, les pêcheurs vont en mer pour pêcher différents poissons, des thons, des sardines. Et dès que l'un d'eux repère un cachalot ou un banc de cachalots, il va rentrer dardard au village et crier et annoncer à tout le village « baléo, baléo », qui veut dire « baleine » dans le dialecte local. Et ensuite, c'est comme un départ à la guerre. Donc là, branle-bas combat, tous les hommes vaillants du village, même les enfants, se mettent à pousser les pirogues dans l'eau. Mmh. Et tout le monde converge vers le cachalot et s'ensuit la chasse, qui est en fait une véritable course derrière le cachalot. Car il faut savoir que le cachalot remonte toutes les demi-heures pour respirer à la surface. Et donc il réapparaît très souvent à 500 mètres, voire 1 km des bateaux. Et là, c'est à la rame que les chasseurs vont poursuivre le cachalot. Donc c'est vraiment impressionnant.
C'est comme ça d'ailleurs depuis l'époque de Moby Dick, hein, ça n'a pas tellement changé.
Mmh, exactement.
Mais c'est-à-dire que la bête a sa chance, qu'on est très très loin, on va dire, des harponnages quasiment industriels des Japonais, quoi.
Ah oui, c'est ça, c'est vraiment une pêche très loyale, hein. Il y a d'ailleurs des accidents tous les ans, c'est quand même une pêche particulièrement dangereuse. Et il faut savoir qu'ils ramènent entre 15 et 25 cachalots par an. On est très loin là, des Norvégiens ou des Japonais qui tuent presque un millier de baleines par an.
Oui. Qu'est-ce que vous avez constaté quand même au cours de ces voyages? C'est-à-dire, est-ce que les gens se rendent compte que maintenant les stocks ne sont plus les mêmes? Il y a ces problèmes de bonne ou de mauvaise gestion de la pêche?
Ah oui, le constat qu'on a fait de manière globale, il n'est pas très original, mais c'est celui de la surpêche. Enfin, notamment dans les zones côtières, donc qui sont les zones auxquelles on s'est intéressé pour les pêcheurs traditionnels. Et enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est, comme pouvait le dire Indira Gandhi à son époque, mais c'est que la pauvreté, c'est la plus grande source de pollution. Oui. Et en fait, ce qui pousse ces pêcheurs à avoir des pratiques entre guillemets anti-environnementales, c'est souvent le grand dénuement dans lequel ils vivent.
Ils n'ont pas le choix, ils doivent bouffer le soir.
Ils n'ont pas le choix. Donc, si ces pêcheurs pêchent en utilisant la dynamite, en utilisant des poisons comme le cyanure, pêchent en utilisant des filets qui ont des mailles très fines, qui gardent du coup les petits comme les gros poissons, c'est avant tout parce que leurs conditions de vie sont difficiles et ils ont besoin du moindre petit poisson pour arriver à joindre les deux bouts. Parce qu'en gros, très souvent, on a remarqué dans ces pays-là, l'activité de pêche, enfin, on devient pêcheur par défaut. C'est parce qu'on n'a pas eu accès soit à l'éducation, soit à des offres d'emploi plus stables qu'on devient pêcheur. Parce que c'est un métier pour lequel il y a très peu de barrières à l'entrée, pas vraiment beaucoup d'investissement pour devenir pêcheur, qui rapporte tout de suite. Donc pour beaucoup de gens, c'est perçu comme étant une solution de secours. Et donc ce qu'il faudrait arriver à développer dans ces villages pour sauvegarder l'environnement et améliorer en gros les revenus de ces gens, c'est des sources alternatives de revenus. Ça peut être du tourisme, voire même de l'écotourisme, c'est un mot qui est assez à la mode, mais on a vu dans des villages africains des super initiatives où en gros des ONG subventionnaient d'anciens pêcheurs pour qu'ils aillent protéger des populations de tortues qui étaient avant menacées car ces mêmes pêcheurs les consommaient, donc soit leurs œufs, soit carrément la viande de tortue. Les ONG s'arrangeaient pour envoyer des groupes de touristes dans ces villages-là et qui, du coup, généraient des revenus importants pour le village et permettaient à une partie des anciens pêcheurs du village de devenir guides touristiques ou ce qu'ils appelaient « conservation officers », c'est-à-dire des sortes d'officiers de la protection environnementale. Il y a l'effort de pêche dans des pays comme l'Indonésie a été multiplié par 3 depuis 20 ans. C'est vraiment considérable. Et donc, je pense que ce qui n'est pas durable, c'est d'avoir cette pente toujours aussi croissante du nombre de pêcheurs.
Où sommes-nous?
Alors là, on est en Inde. Donc c'était au mois de décembre, on était là-bas, à Varkala, donc c'est dans le Kerala. Donc là, c'est une autre technique, c'est un filet géant. Là, donc là, on entend les pêcheurs qui se donnent du courage et qui tirent le filet en chantant ou en criant, comme on peut l'entendre. Et donc voilà, donc c'est des filets absolument immenses qui peuvent faire 1 km, voire 2 km de long, qu'ils mettent le matin en mer. Et puis après, ils le ramènent vers la plage, chacun d'un côté. Ils sont quoi? Ils sont une quinzaine, une vingtaine. Et ils ramènent le filet jusqu'à rapporter le butin sur la plage. Mmh. Et après, chacun se partage les poissons ramenés sur la plage. Ça peut être des thons, des sardines, ça peut être toutes sortes de petits poissons. Donc c'était ce genre de pêche qu'on a vu.
Vous avez vu aussi donc, la pêche aux araignées de mer, aux crabes géants?
Ouais. Ouais, exactement. Ça, c'était dans le sud du Chili. On était sur une île qui s'appelle Chiloé, qui est au nord de la Patagonie, ouais, et qui ressemble vraiment à la Bretagne. C'est impressionnant. C'est une terre de pêcheurs, une terre de légendes diverses et variées.
Mais il n'y a pas de portiques, c'est différent.
Mais... non, exactement. Ils n'ont pas encore les portiques, mais sinon, c'est vraiment la Bretagne à la mode sud-américaine. Et donc, on a été avec des pêcheurs relever des casiers placée dans le Pacifique Sud. La prise la plus recherchée là-bas, c'est l'araignée de mer, qui atteint souvent des dimensions énormes. Enfin, pour donner un ordre d'idée, les plus grosses atteignent jusqu'à 50, 60 cm d'envergure, entre, donc si on mesure la distance entre les pattes, qui finissent souvent dans des grands restaurants, soit dans la capitale du Chili, Santiago, soit carrément à l'étranger.
Que vous avez appris tous les deux profondément, parce que donc c'est un véritable choix ce voyage, cette année sabbatique pendant un an. Après, donc vous êtes destinés aussi à être des dirigeants plus tard de notre pays, et vous aurez eu quand même ce déclic que vous aviez déjà avant, mais vous l'avez mis vraiment en pratique. Que constatez-vous en prenant comme ça, sous l'angle de cette pêche artisanale, en prenant le pouls de ces différentes populations?
Moi, je pense que c'était une grande dose d'humanité pour nous. Enfin, on a passé un an à vivre avec des populations assez pauvres et qui sont, enfin, qu'on pourrait qualifier de perdants du monde moderne ou de la mondialisation. C'est des gens qui sont un peu exclus, qui sont aux marges de la consommation, de l'information, tout ça. On a quand même réussi à trouver des terrains d'entente, des terrains de discussion, des terrains de plaisanterie même. Enfin, on a beaucoup rigolé avec les pêcheurs en général, on a partagé des moments conviviaux.
Il y a un tel fossé culturel entre nous et eux, les pêcheurs du Sud, et malgré tout, c'est comme s'ils sautaient sur l'occasion, comme s'ils saisissaient l'occasion d'avoir deux blancs-becs à la maison chez eux. On n'était pas du tout dans des coins touristiques, donc c'était vraiment quelque chose de pas courant pour eux, voire parfois c'était même la première fois qu'ils rencontraient des blancs voyageurs comme nous. C'est comme s'ils sautaient sur l'occasion pour nous poser un maximum de questions, comment on vivait, comment on mangeait. Et ça, c'était assez frappant de voir cette ouverture sur le monde qui vraiment, c'est vrai.
Je rebondis là-dessus. Autre point assez intéressant dans nos discussions avec les pêcheurs de par le monde, c'était leur volonté de savoir comment vivaient nos pêcheurs à nous. Donc en Bretagne, par exemple, comme s'ils se sentaient pris dans une communauté de pêcheurs mondiale, et ils avaient vraiment l'envie et le besoin de savoir comment leurs congénères pêcheurs, qu'ils soient français, africains, indonésiens, vivaient, quelles techniques ils utilisaient, etc. Donc ce qui était même intéressant à la fin du voyage, c'est de pouvoir parler, par exemple, à un pêcheur indonésien des conditions de vie et de travail d'un pêcheur africain. Et finalement, se rendre compte que ces gens-là habitent à des milliers de kilomètres de distance, parlent pas la même langue, etc. Mais finalement, pratiquent le même métier dans le même environnement et sont en général soumis aux mêmes contraintes.
Comment vous parliez ? En anglais ou comment ça se passait ?
Non, c'était assez rigolo. On prenait dans les guides de voyage, on apprenait le dialecte du pays concerné. Donc, quand c'était au Kenya ou en Tanzanie, on apprenait un petit peu quelques mots de Swahili. En Thaïlande, on apprenait du Thaï, etc. Et donc, on apprenait une dizaine de mots au maximum. Ça suffisait pour communiquer et surtout faire rire les pêcheurs. Et finalement, c'est comme ça qu'ils nous ouvraient les bras et puis ils nous emmenaient à leur bord, sur leur barque. Et voilà. Tout débutait par ça. Bonjour, comment ça va? On apprenait poisson. On sait dire poisson dans toutes les langues maintenant, c'est assez rigolo.
Faites-nous partager là.
Vas-y, je commence en malgache.
Je commence en malgache, poisson se dit trondro.
En indonésien, ça se dit ikan.
Voilà, en swahili, c'est samaki. D'ailleurs, c'est assez proche de l'arabe, pour ceux qui parlent arabe, on dit poisson en arabe, c'est samake. Donc on voit bien les origines communes des langues. En thaïlandais, c'est plakout.
Coup de plat.
Coup de plat,
ouais. Excuse-moi. Oui, c'est presque du virement.
Voilà. Bon, après, en portugais, au Brésil, c'était peixe. Bon, pescado en espagnol, évidemment. Final, on a fait un vrai tour du monde aussi par le vocabulaire de la pêche.
Ouais. Qu'est-ce qui vous donne confiance maintenant dans l'avenir? Parce que 23 ans, 24 ans, vous savez que vous héritez d'un certain nombre quand même de problèmes environnementaux, sociaux, économiques. Bon, et on ne vous sent pas du tout abattu, et c'est drôlement bien. Comment vous projetez, tous les deux?
C'est sûr, en ce moment, en France, on est dans un environnement médiatique, etc., assez négatif, assez sombre. Et je pense qu'il est important de faire ressortir les bonnes initiatives. Enfin, il y a des gens en France et dans le monde qui se bougent pour faire changer les choses, pour penser un peu différemment. Et c'est l'exemple de ces gens-là qu'il faut suivre pour l'avenir. Et pour donner des exemples, on était dans un village à un moment en Indonésie qui s'appelle Pulau Bungin. Donc c'est sur une toute petite île au large de l'île de Sumbawa, donc c'est dans l'archipel de la Micronésie, donc dans l'est de l'Indonésie. Les chefs de ce village étaient très contents de nous avoir dans le village parce qu'ils voulaient notre avis pour les aider à développer l'écotourisme dans leur village. Et donc en quelques jours, avec l'aide des chefs locaux et des habitants, on leur a mis sur pied un petit plan de développement de l'écotourisme pour leur village. Et ça montrait bien l'envie de ces gens-là, qui, bien qu'étant très peu au fait des pratiques touristiques, etc., avaient compris qu'il y avait des solutions pour changer les activités économiques de leur village. Tous les gens de ce village vivent de la pêche et surtout de la plongée. Donc, et c'est très, très dangereux parce qu'en gros, ils plongent en utilisant des compresseurs. Donc, ils ont un tuyau qui les suit jusqu'au fond de la mer. Ils sont très peu éduqués en général sur les questions de décompression, oui, de techniques de plongée. Donc, il y a beaucoup d'accidents, beaucoup de gens amputés dans le village, etc. Et ces gens-là se rendent compte que tout miser sur la pêche, vu l'essor démographique et vu la baisse quand même des stocks de poissons,
ça va pas être tenable.
C'est pas tenable. Et donc, ils ont identifié le besoin de changer quelque chose. Et après, tout ce dont ils ont besoin, c'est un petit coup de pouce de gens de l'extérieur qui ont des solutions à leur proposer. Et après, ces gens-là auront l'énergie pour les mettre en place.
Bah, il me reste plus qu'à vous remercier. Donc, Guillaume Daoula, c'est Gilles Dufraisse. Et puis, bah, voilà, je crois que vous êtes parti pour une nouvelle aventure après. Donc,
hein. Ouais. On est pris par le virus du voyage. J'imagine qu'on va continuer. Et puis,
Un petit mot pour ceux qui seraient curieux d'aller lire des récits de notre voyage ou d'aller voir des photos de notre voyage. Alors, on a une page Facebook qui est toujours active. Donc vous tapez « pêcheur » avec un S autour du monde dans la barre de recherche Facebook. Et on a aussi un blog qui a été assez bien fourni pendant le voyage. C'est « pêcheur » avec un S autour du monde en un seul mot.fr.
Et a priori, comme on n'a jamais le temps de noter, évidemment, et ben c'est sur le site de CO2 Mon Amour, donc franceinter.fr. Après CO2 Mon Amour, vous avez l'habitude, vous aussi pouvez converser, hein, n'hésitez pas, hein, sur tous les sujets, c'est évidemment ce site qui vous est offert, vous en avez l'habitude avec toutes les émissions de France Inter. Donc merci à nos deux jeunes, c'était la troisième page de cette émission, et la quatrième, ah bah après les jeunes, on va retrouver un autre jeune, oui, en Lorraine, bon il a 80 ans, ça n'est pas grave, il s'appelle Jean-Marie Pelt, et nous irons dans son jardin.
Jardin des rêves, on promène ses chaînes, on croise des tourtereaux, dans les serres des vautours, certains font des affaires.